RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Salut Fabrice.
Christophe, salut.
En forme?
En pleine forme, et vous?
Mais très bien,
je
nous
vois.
Sommes ensemble pour apprendre en famille, entre amis, pour découvrir et aussi se divertir chaque semaine dans C'est votre jour de science. Fabrice, une devinette, tiens, pour nos amis auditeurs. Qu'est-ce qui est ni animal, ni végétal, ni plante, ni champignon? Ce n'est pas vous, hein. Qui est cet être vivant extraordinaire, considéré par les scientifiques comme un ovni de la nature? C'est le blob. Et oui, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom mystérieux? Pour le découvrir, nous recevons Fabrice cette semaine l'une des spécialistes mondiales de la question, la chercheuse française Audrey Dussutour, depuis son laboratoire de Toulouse.
Oui, c'est vrai, Christophe, qu'on invite vraiment, mais alors vraiment sur cette émission, nos auditeurs à ne pas décrocher une oreille. On va partir à la rencontre d'un incroyable organisme primitif qui fait littéralement tourner la tête aux scientifiques avec son unique cellule géante remplissant tous les rôles, sa potentielle immortalité, on va le comprendre, ou encore sa capacité à apprendre, à s'échapper d'un labyrinthe ou à faire montre de personnalité. Et puis surtout, vous l'avez dit, pour enquêter sur cet être vivant complètement à part, on s'est adjoint aujourd'hui les services de la plus fine lumière en la matière, Audrey Dussutour, que l'on a eu le plaisir de recevoir dernièrement à Galet, à chercheuse au CNRS, spécialiste du comportement des fourmis et des organismes unicellulaires, auteur dernièrement de l'ouvrage « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, sans jamais oser le demander » aux éditions des Équateurs. Elle est donc avec nous par téléphone depuis l'université Paul Sabatier de Toulouse.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Audrey Dussutour.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci Audrey. D'être avec nous dans C'est votre jour de science. Le blob, alors qu'est-ce que c'est exactement si ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon?
Alors le blob, il fait partie d'un règne qu'on appelle les amébozoaires. Donc c'est un règne un petit peu moins connu, mais les gens connaissent peut-être l'amibe parce que c'est quelque chose qu'ils attrapent souvent en voyage et qui est un petit peu désagréable. Donc il fait partie de ce règne où c'est des organismes unicellulaires, donc composés d'une seule cellule, qui se déplacent avec des excroissances qu'on appelle pseudopodes.
Alors comment est-ce qu'on peut le reconnaître, allez Audrey, si on devait tomber un jour sur un blob, à quoi il ressemble exactement?
Alors le blob, ça ressemble selon l'espèce, parce qu'il en existe 1000 espèces différentes. Ça ressemble souvent à une vieille omelette ou à des œufs brouillés. Mais beaucoup d'espèces sont jaunes, vous en avez aussi des blanches. C'est assez gluant. Ça ressemble un tout petit peu à un champignon ou à un lichen, mais c'est gluant. Donc ça, et c'est toujours à l'ombre, vous n'allez jamais en trouver en plein soleil.
Donc vous nous parlez quasiment d'une, on va dire, d'œufs écrasés, d'une omelette qui se trouverait en pleine forêt par exemple?
Oui, c'est ça. Il faut que le milieu soit humide, parce que le blob déteste quand le milieu est très sec. Il faut qu'il soit à l'abri de la lumière. Donc souvent, si vous regardez dans les écorces d'arbres pourris, ou par exemple si vous avez des bûches de bois chez vous, souvent il y a des blobs cachés dedans.
Bon, alors la question que, à mon avis, se pose pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, cet être vivant étrange, on va d'ailleurs rentrer dans sa complexité, dans sa manière de fonctionner, vous l'étudiez tellement depuis des années, depuis d'ailleurs quelques années australiennes vous concernant. Est-ce qu'il y en a en Corse?
Oui, il y en a beaucoup. J'en ai même reçu des photos de Corse qui m'ont envoyé des photos de blobs. Donc il y a une grande biodiversité. Il faut savoir qu'entre la métropole, la Corse, etc., il y a au plus de 100 espèces différentes.
D'accord. Bon, et est-ce que c'est son vrai nom, le blob? Parce qu'à mon avis, les scientifiques ont trouvé quand même un truc un peu plus compliqué.
Oui, non, c'est pas son vrai nom. En fait, ce que j'appelle blob, c'est ce qu'on appelle les myxomycètes. Donc c'est une classe d'organismes. Et celui que moi j'étudie en laboratoire, il s'appelle Physarum polycéphalum.
D'accord. Bon alors, il faut quand même préciser aux auditeurs, et Christophe, je crois, n'était pas loin à ce moment-là, que vous êtes venu en Corse à nous rencontrer au Parc Galet, c'était au printemps, que vous avez donné des blobs à tout le monde. Et effectivement, depuis, dans Bastia, dans Ajaccio, à Corté, il y a plein de petits blobs qui se sont échappés, qui ont repris leur liberté. Ça grandit beaucoup quand on les élève?
Alors, quand on élève un blob, normalement, il double à triple de taille tous les jours. Donc, ça devient vite envahissant. Si on le nourrit, donc normalement, un blob dans la nature, ça mange des champignons et des bactéries. Mais à la maison, quand on en a un, la plupart du temps, on le nourrit avec des flocons d'avoine.
Bon, et ça se régale avec de l'avoine?
Tout à fait.
Alors, il y a un truc qui est rigolo, et on voit beaucoup de vidéos sur Internet, grâce notamment aux conférences filmées que vous faites, Audrey Dussutour, c'est que le blob, donc cette sorte de mousse gluante que la personne non avertie verrait comme une sorte de lichen ou de champignon bizarre, le blob marche, avance et peut même foncer à 4 cm heure?
Oui, tout à fait. Le blob rampe sur son substrat. Alors, il a un système de locomotion tout à fait particulier, qui lui est unique. Il se déplace grâce à un système veineux. Donc en fait, la cellule est parcourue par des veines et ces veines se contracte régulièrement, et en se contractant, elle pousse un liquide qui est un petit peu le sang du blob, hein, contre la paroi du blob, la membrane, et c'est comme ça qu'il avance. En fait, le blob, c'est un système, c'est de pousser, avancer de deux pas, hop, et de reculer d'un pas, avancer de deux pas et reculer d'un pas. Donc c'est pas très rapide, mais pour, à l'échelle d'une cellule, c'est extrêmement rapide.
Alors Audrey Dussutour, pourquoi il n'a pas envahi la Terre, le blob,
s'il est si habile?
Il est un petit peu fragile quand même, le blob. Le blob, il est déjà, la lumière peut le tuer, et surtout il a des prédateurs. Les limaces raffolent du blob, donc déjà elles vont le ronger un petit peu. Et après il est très sensible aux températures. S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. Alors le blob, c'est plutôt entre 18 et 25 degrés qu'on va le trouver.
Il y a quelque chose d'incroyable, on vous entend aussi, où on peut lire que cette cellule unique qui fait tout, hein, qui joue tous les rôles, on le précisait en introduction, à la fois d'œil, de bouche, d'estomac, enfin ça on va aussi un petit peu rentrer dans les détails tout à l'heure, presque anatomique. Mais il peut faire, cette cellule peut faire jusqu'à la taille de Monaco dans les Appalaches?
Oui, c'est ça. En fait, ils ont retrouvé dans les Appalaches des morceaux de blob, parce que le blob peut se partager en plein de petits morceaux. Ils ont retrouvé plein de petits morceaux qui couvraient entièrement une forêt. Mais en réalité, la plus grande cellule enregistrée dans le Guinness des records de blob, c'est 10 mètres carrés. C'est déjà impressionnant.
Incroyable, oui.
Et c'était donc un cadeau de départ à la retraite d'un vieux professeur. Ils avaient fait un blob géant. Alors pourquoi le blob peut atteindre des tailles aussi grandes? C'est important pour les auditeurs, c'est que cette cellule, elle n'est pas mononucléée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas qu'un seul noyau comme une cellule classique, mais elle en a beaucoup, ce qui lui permet d'atteindre des tailles gigantesques.
Et on est bien d'accord que donc une seule cellule, et si on devait, vous le faites d'ailleurs lors de vos interventions, si on devait comparer ça à l'humain, nos cellules feraient combien la taille d'une planète?
Nos cellules font en moyenne, ça dépend de la cellule, mais de 10 microns. Donc vous voyez, c'est le blob est 10 000 fois plus gros qu'une cellule humaine.
Ça, c'est impressionnant. Et alors, on précise, cette cellule unique fait tout, bouche, estomac, œil,
etc. Donc comme c'est un unicellulaire, comme les unicellulaires, il n'a qu'une cellule, et donc avec, il doit manger, respirer, réfléchir, entre guillemets. Oui. Donc avec cette cellule unique, il doit tout faire. En fait, toutes les fonctions qui nous sont assurées par le corps humain, par 100 000 milliards de cellules.
Bon, alors maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant. Et là, avec Christophe, on va demander aux auditeurs de se concentrer, de bien écouter comment un scientifique travaille. En l'occurrence, vous, Audrey Dussutour, qui est évidemment une des expertes mondiales de la question, hein, sur ce blob. En laboratoire, même vos collègues, hein, je sais que du côté de Tokyo, on bosse beaucoup sur ce sujet. En laboratoire, qu'est-ce qu'on a tenté de faire à ce blob pour comprendre son fonctionnement? Il y a eu des petits jeux, il y a eu des labyrinthes, il y a eu des choses comme ça?
Alors oui, il y a des expériences qui sont très célèbres. Alors la toute première qui a rendu le blob célèbre, c'est l'expérience du labyrinthe qui a été fait par Toshiaki Nakagaki. Il a montré en fait que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc ça a été publié dans la plus grande revue scientifique qui s'appelle Nature. Et ensuite, il a refait une expérience encore plus incroyable. Il a montré que le blob pouvait être plus intelligent que les ingénieurs des chemins de fer à Tokyo.
Ça, c'est fou.
C'est-à-dire, le blob, comme il est parcouru d'un système veineux, ils ont montré que ce réseau de veines, en calquant sur la cartographie japonaise, était plus optimisé que le réseau ferroviaire japonais. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un blob sur une mini-carte de Tokyo. Ils ont mis le blob sur Tokyo et avec des petits flocons d'avoine, ils ont représenté les villes autour de Tokyo. Le blob est ensuite, bien sûr, allé manger tous les flocons d'avoine. Il a fait un réseau. Et ce réseau était beaucoup plus optimal que le réseau ferroviaire japonais. Donc ça, c'était la deuxième expérience qui a été publiée dans la revue Science.
Et puis, il y a quelque chose aussi, je crois, sur, on va pas dire sur la mémoire, mais le fait peut-être d'essayer de lui faire traverser un pont avec une matière qu'il n'aime pas, il va peut-être s'y habituer au bout d'un moment?
Alors ça, c'est les découvertes que nous, on a fait à Toulouse. On a montré pour la première fois qu'une cellule était capable d'apprendre. Donc ça, c'était une grande découverte parce qu'il faut savoir qu'une cellule, par essence et par définition, est dépourvue de système nerveux.
Ben oui.
Une cellule n'a pas de cerveau. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que cette cellule, elle pourrait quand même apprendre des choses? Est-ce qu'elle peut avoir une forme de mémoire? Et donc, on est parti sur un système d'apprentissage relativement simple qui s'appelle l'habituation. Alors, pour que les gens comprennent mieux, l'habituation, on le fait tous les jours. C'est quand vous rentrez dans une pièce et que ça sent mauvais et que vous restez une heure dans cette pièce, et au bout d'un moment, vous allez vous habituer à la mauvaise odeur. Et bien, c'est exactement ce qu'on a fait avec le blob, avec des substances qu'il n'aime pas. Alors, on avait l'embarras du choix parce que le blob est assez difficile. Et donc, on a utilisé la caféine et le sel, par exemple, et on a montré que le blob pouvait apprendre à aimer ces substances, même s'il ne les aimait pas au départ.
Mais alors là, il y a quelque chose qui est quand même incroyable. Que dit la science? Que dites-vous, vous, scientifiques, chercheuses, quand on voit qu'une cellule, et vous l'avez précisé, qui n'a pas de neurones a priori, hein, peut apprendre? C'est quoi? Elle est où l'explication?
Alors l'explication, c'est ce qu'on est en train de chercher. Clairement, du coup, les mécanismes derrière cet apprentissage ne peuvent pas être les mêmes qu'on va retrouver chez les animaux qui sont équipés d'un système nerveux, mais ça nous renseigne surtout sur les origines de ces capacités-là. En fait, au départ, vous regardez dans un siècle, on pensait que l'intelligence était restreinte aux humains. Après, on l'a ouverte un peu aux animaux. Il y a 10 ans, aux plantes, on s'est aperçu que les plantes pouvaient aussi montrer des capacités d'apprentissage. Et maintenant, il y a 1 an, on découvre que même les organismes unicellulaires, comme le blob, peuvent apprendre. Et du coup, ça ouvre les possibilités que, par exemple, les bactéries pourraient apprendre aussi.
Il n'est ni animal ni végétal. On s'intéresse cette semaine au blob dans C'est votre jour de science. Votre invitée, Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
France Bleu RCFM.
Bienvenue dans C'est votre jour de science. Fabrice, on s'intéresse cette semaine à un être vivant extraordinaire. Ce n'est pas vous hein, qui intéresse les chercheurs,
malheureusement.
C'est le blob. Alors, qui est-il vraiment? Pour le découvrir, nous recevons l'une des personnes qui le connaît le mieux. C'est Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS. Elle travaille au Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse. Audrey, alors, différentes personnalités de blob selon le pays d'origine?
Oui, c'est ça. On a plusieurs blobs au laboratoire et on en a un qui vient du Japon, un qui vient des États-Unis et un qui vient d'Australie. Et au départ, quand on les a ramenés au laboratoire, la première chose qu'on a fait, c'était de les comparer. Et en fait, ça a été assez franc, les différences, puisque déjà, le blob américain a refusé catégoriquement de manger de l'avoine bio. Donc déjà une petite personnalité. Et puis petit à petit, on les étudiant, on s'est aperçu que le blob australien était beaucoup plus social que le blob américain, que le blob américain est un petit peu cannibale puisqu'il attaquait le blob japonais. Mm-hmm. Donc on a vu pas mal de différences de vitesse, aussi dans leur capacité à prendre des décisions. Le blob australien est un petit peu plus précis quand il prenait des décisions, mais un peu plus lent. Donc voilà, on a fait plein de catégories comme ça et on a pu voir qu'en effet, ils ont des formes de personnalité entre guillemets différentes.
Et vous pensez que si les chercheurs avaient bossé sur un autre être vivant, hein, on parlait tout à l'heure des champignons, des plantes sur lesquelles on apprend de plus en plus de choses, chemin de la science faisant, est-ce qu'on aurait pu aussi trouver des différences selon les pays? Vous avez d'autres exemples? Alors vous avez beaucoup étudié les fourmis, hein, vous continuez, là je crois qu'il y a peut-être un livre en préparation, mais on ne va pas trahir les secrets d'édition. Les fourmis par exemple ont aussi des caractères différents selon leur région d'origine?
Alors, pas forcément leur région d'origine, mais par exemple entre colonies. Vous pouvez très bien avoir deux colonies de fourmis qui sont de la même espèce, mais il va y avoir une colonie un peu plus agressive que l'autre. Donc oui, il y a de la variabilité, et il y a aussi même de la variabilité au sein de la colonie elle-même, puisqu'on va avoir des fourmis qui sont plus travailleuses que d'autres, par exemple.
Bon, allez, on revient à notre blob. Ça, c'était l'aparté de la spécialiste, la myrmécologue, là, qu'on avait au téléphone, et je voulais en profiter pour vous lancer aussi sur cela. On revient à cette idée d'immortalité ou de capacité à se soigner. Hein, vraiment là, dans la peau d'un blob, quand on le coupe, il saigne mais pas longtemps et tout se reconstitue?
Oui, tout à fait. Alors le blob, comme c'est une cellule polynucléaire avec plein de noyaux, on peut la couper en plein de morceaux et ça fait plein de blobs autonomes. Et ces blobs autonomes, on peut même les remettre ensemble pour en former un seul blob unique. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc quand on coupe un blob, en moins de 2 minutes, il cicatrise. Et il a aussi cette capacité, le blob, si les conditions sont pas top, il n'a plus à manger, il fait un petit peu sec, de rentrer en dormance, c'est-à-dire de vraiment dormir. Hein. Et c'est un stade qu'on appelle une sclérote. Et donc, il peut rester ainsi, sans manger, dans un placard, hein, pendant 1 an ou 2 ans. Et quand vous voulez le réveiller, vous avez simplement à l'arroser d'eau. Et quand il se réveille, il est un nouveau jeune et vigoureux.
Alors là, on va vous confier quelque chose. Lui, il a de la chance. Il a de la chance. Et je vais vous confier quelque chose, Audrey, quand effectivement, vous êtes venu nous rencontrer en Corse. On a eu cette chance de vous accueillir sur notre territoire au printemps, on le disait dernier. Vous avez eu la gentillesse d'amener ces sclérotes à beaucoup de gens dans le public. Il y en a eu des centaines de distribués. Et c'est vrai, jusqu'à mes propres fils, il n'y a pas longtemps, une simple goutte d'eau, quand ils ont eu envie voilà, de le faire revivre, a suffi. Et ça, alors on sait que les mousses le font aussi, hein, parfois dans la nature d'autres éléments, mais c'est absolument incroyable de se rendre compte qu'on puisse être en dormance. Alors ça ressemble, on va dire, à un bout d'herbe sèche, hein, quand vous le remettez dans la main de quelqu'un.
Quelque chose de pas vivant.
Et le lendemain, c'est une omelette jaune qui envahit votre cuisine. C'est assez dément, en réalité.
C'est pour ça qu'on peut garder les blobs très longtemps en laboratoire. Nous, on les a depuis 70 ans.
Ouais, et alors, qu'est-ce que vous en faites comme ça double tout à chaque fois que vous leur donnez des céréales? À un moment donné, ça envahit votre pièce.
Exactement. Alors, nous, le problème, c'est qu'on est nous envahit très rapidement, donc on doit s'en débarrasser, on n'a pas le choix. Et la plupart du temps, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les rentre en dormance, et du coup, comme ça, on peut les distribuer lors des conférences.
Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup eu d'instituteurs, hein, de profs pendant les conférences qui ensuite ont eu l'idée de s'en servir avec des élèves. Et pour étudier le vivant, c'est très très ludique.
Exactement, énormément de groupes de TPE, donc travaux pratiques encadrés en première, scientifiques, me demandent des blobs régulièrement.
Il y a des utilisations thérapeutiques de temps de prouesse?
Alors, pour l'instant, très peu, mais il y a quand même des premières évidences. La première chose, c'est que le blob peut, par exemple, accumuler des métaux lourds. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour dépolluer des sols. Ensuite, par exemple, la morphogénèse de son réseau veineux obéit au même mécanisme de la morphogénèse des réseaux veineux des tumeurs. Donc, il y a une équipe en Allemagne qui se concentre là-dessus. Ensuite, comme le blob est un prédateur de bactéries et de champignons, il sécrète des antibiotiques et des fongicides qui pourraient être intéressants en médecine.
Et autre chose, là, juste encore une fois, hein, pour rester dans l'intimité de ce blob, je me rappelle d'une petite intervention que vous aviez fait, il est capable de transmettre son savoir, on disait qu'il apprenait, hein, qu'il avait cette forme de mémoire, on parlait de pont tout à l'heure à traverser, mais ça se transmet d'un blob à l'autre quand même pas?
Tout à fait. On peut par exemple apprendre à un blob à aimer le sel et le faire fusionner avec un blob naïf qui lui n'aime pas le sel et ainsi lui faire aimer le sel. Donc c'est une expérience qu'on a fait, ça marche jusqu'à 5 blobs, c'est-à-dire vous apprenez à un blob à aimer le sel et vous le faites fusionner avec 4 blobs qui sont naïfs et à la fin, dans la fusion, si vous les séparez, les 5 aiment le sel. Donc l'information est passée de blob en blob.
Bon là, vous forcément, hein, et avec Christophe, on le sait bien, surtout sur cette émission scientifique grand public, il y a des petites oreilles, des grandes oreilles, hein, des enfants, des adultes qui nous écoutent de l'autre côté du poste et qui sans doute d'ailleurs vous ont déjà entendu parler de cette thématique. Hein. On a la chance de vous avoir très très régulièrement en interview sur les grands médias, Audrey du Sutour, sur cette thématique. Forcément, ils vont se dire, allez, cet après-midi, on part en forêt, on trouve une souche d'arbre, on regarde s'il y a un truc gluant qui ressemble à un champignon mais qui n'en est pas un, une sorte de mousse, on la chope et on l'élève. C'est quand même pas possible de ramener un blob domestique à la maison?
Alors, c'est possible, mais tous les blobs ne s'élèvent pas aussi facilement que Physarum polycéphalum. C'est un peu le problème, mais il y en a pas mal qui s'élèvent quand même sur des flocons d'avoine, donc il faut quand même tenter l'expérience. Mais si jamais les gens veulent tenter l'expérience, on a fait avec un ami cinéaste un petit tutoriel sur YouTube où on apprend comment élever un blob à la maison. Donc si jamais vous échouez avec le blob que vous avez trouvé dans la nature, vous pouvez toujours en commander un, parce que ça se commande sur Internet comme tout actuellement. Vous pouvez commander un blob sur Internet et faire un petit élevage à la maison.
Bon, moi ça, alors je, autre
ça vous tente Fabrice?
Mais moi, figurez-vous que j'ai testé, ouais, je vous disais tout à l'heure, mes deux fils, mais c'est terrible, c'est-à-dire que effectivement Audrey Dussutour étant passée par ici, elle nous avait amené une boîte de pétri avec à l'intérieur, on va dire l'équivalent d'un œuf plat là, qu'on aurait donc ce blob, un jaune fluo, et évidemment il a envahi mais complètement mon placard, ça veut dire que j'avais oublié de le nourrir pendant une journée, et il part à la recherche de nourriture, c'est ça Audrey, hein, quand on part en vacances, c'est pas possible.
Exactement, le blob s'échappe régulièrement si on lui donne pas à manger. C'est un petit peu un vorace, donc si vous lui donnez pas à manger tous les jours, il va aller chercher à manger lui-même. Et donc souvent, il sort de sa petite boîte. Mais alors, quelque chose à noter à la radio aujourd'hui, c'est qu'à force de donner des blobs, ça fait un petit peu de la science participative. Et donc, il y a un papa qui est revenu vers moi et qui m'a dit qu'il avait trouvé une solution géniale pour pouvoir conserver le blob plus facilement. Donc, je tiens à la partager avec les auditeurs. Si vous utilisez de l'argent colloïdal, donc c'est une solution d'argent qui se vend dans les pharmacies, dans les boutiques bio, c'est pour protéger contre l'infection des champignons. Vous n'aurez pas à nourrir votre blob tous les jours, mais peut-être que tous les deux ou trois jours.
Ah, c'est-à-dire, ça lui fait, c'est une sorte de régime alimentaire où il se serre un peu la ceinture, mais ça fonctionne?
Exact. On le met sur les flocons d'avoine et ça évite les moisissures. Parce que le plus gros problème du blob quand on l'élève, c'est que les flocons d'avoine peuvent moisir à la température de 25 degrés et que ces moisissures peuvent attaquer et parasiter le blob. Et c'est le plus grand problème des éleveurs de blob, je dirais. Et donc ce papa a découvert qu'en mettant un petit peu, en vaporisant de l'argent colloïdal, on évitait les infections.
Bon.
Je tiens à partager ça avec les éleveurs de blob.
Ça c'est cool parce que ça veut dire effectivement que la science participative a un vrai intérêt et vous êtes vous en réception de toutes ces infos. C'est important pour le travail de chercheur que vous faites. Vous bossez sur les fourmis, Audrey. Allez, petite info que vous pourriez nous donner. Vous repartez sur les fourmis, vous continuez sur le blob. Vous en êtes où de vos recherches? Sont toujours passionnantes.
Alors, les recherches à l'heure actuelle se partagent bien sûr entre les fourmis et le blob. Du côté du blob, on est en train d'essayer de voir si le blob peut apprendre des choses plus complexes que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on essaye de compliquer la tâche. On fait un petit peu une sorte de jeu de loi pour blob en ce moment. Mais on vous en saurez plus quand les publications seront.
Ça marche.
Et pour les fourmis, en ce moment, on travaille sur l'automédication chez les fourmis. Donc, moi, je suis ma base, c'est la nutrition chez les fourmis. Et on regarde si les fourmis, quand on les rend malades avec des champignons, elles sont capables de se débarrasser de ces champignons en manipulant la nourriture qu'elles mangent.
Bon, sortez-nous un bouquin, parce qu'on adore vous lire tellement pédagogiquement. Mmh. Vous êtes génial quand vous parlez de tout ça.
Pour lui, ça sortira l'année prochaine.
Cool.
L'année
prochaine.
Audrey Dussutour, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans C'est votre jour de science. On rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes l'une des spécialistes donc du blob. Vous travaillez au Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse. Merci à vous. Merci. Et puis on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Merci Audrey, au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Et on passe à présent, Fabrice, à l'actualité insolite des sciences. Jurez chaque semaine que tout est vrai, Fabrice.
À chaque fois, on jure et on crache sur les micros, c'est bien vrai.
Alors, l'actualité qui a retenu toute votre attention cette semaine.
Une histoire de chien et d'abord une question que tout le monde se pose évidemment. Est-ce que Christophe, vous avez un chien?
Je n'ai pas de essentiel. Chien, malheureusement.
Bon, enfin, c'est pas grave. À mon avis, ça ne vous a pas empêché de constater combien l'odeur est importante pour les toutous qui laissent toujours traîner leur truffes quelque part, parfois où il ne faut pas, et ça ne vous aura pas non plus échappé qu'un chien se précipite notamment à des endroits où il y a de l'urine pour en rajouter une couche. J'ai remarqué que vous faisiez un peu pareil dans le quartier.
Oui, c'est ça.
Si vous pouvez faire attention.
Exactement.
Les gens le voient. Hein. Donc c'est un moyen évidemment pour les animaux, comme les chiens, de marquer leur territoire. Mais ce qu'on vient de comprendre, et là c'est très intéressant, c'est qu'en sentant l'urine des autres, et en mesurant de manière olfactive l'étendue de la marque laissée, nos fidèles compagnons sont capables de reconnaître la taille et la masse du précédent collègue à poil ayant eu un besoin urgent. Du coup, des recherches toutes récentes ont montré que les plus petits chiens trichent. Il triche littéralement. En utilisant des angles de jambes surélevés et en montant la patte bien plus haut que la moyenne, ce que fait clairement un Yorkshire, un Chihuahua ou un Tekel par exemple quand il se soulage, histoire de laisser la trace la plus étalée possible et faire croire aux autres qu'en fait ce sont de grands, de impressionnants, d'énormes molosses à ne pas chercher. Un peu comme vous, en somme, ils sont les rois du quartier.
Est-ce que votre banquier était content, voire euphorique de vous revoir ces derniers temps.
J'étais dégoûté, moi aussi.
Alors, vous n'êtes pas donc l'héritier de la tortue tirelire. Et oui, cette tortue tirelire qui est morte récemment. 915 pièces de monnaie dans son estomac, Fabrice, ce n'est pas une blague. Son histoire débute en Thaïlande. En 2017, une équipe de vétérinaires d'une université de Bangkok décide de prendre en charge une tortue de 52 ans et 49 kilos, montrant des difficultés à nager. Et pour cause, les vétérinaires, après une intervention chirurgicale de 7 heures, ont extrait pas moins de 915 pièces de monnaie du système digestif de l'animal. Les visiteurs du parc où la tortue vivait depuis 20 ans lui jetaient des pièces.
D'accord.
Vous auriez aimé ça, censé porter chance au lanceur. Et donc, elle, les avalait tout simplement. On lui a retiré pas moins de 5 kilos de monnaie. Le reptile semblait, Fabrice, reprendre du poil de la bête, même s'il devait encore suivre des soins, comme des traitements infrarouges sur ses points de suture. À terme, l'équipe médicale avait émis le souhait de relâcher la tortue en mer, loin des lanceurs de pièces. Donc, elle a finalement succombé suite à des complications liées à son opération. Pauvre tortue tirelire, comme quoi avoir de l'argent ne fait pas tout. Toujours le bonheur, Fabrice.
Vrai, vrai, on retiendra la leçon.
On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques. Bonne soirée et merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur bleurcfm.com. Bonne azère à toutes.